Chapitre 32.
2 octobre 1998, 13h41. De son poste d'observation, Eila Ozan dominait toute la propriété de la roseraie. Elle s'était installée dans le bois de Couvray. Après le chemin des chauds-soleils, elle avait discrètement suivi un sentier qui montait entre les arbres. De là, dissimulée derrière un tronc, elle ne pouvait rien rater des allées et venues chez les Carville. Pour l'instant, rien ne bougeait dans la propriété, pas même le vieux Carville, sous son arbre, au milieu de la pelouse, comme une sorte de sculpture moderne au milieu d'un parc public. Il ne manquait plus que du lierre grimpant le long de ses jambes et du lichen sur les roues du fauteuil. Eila avait inspecté les environs, les rues, les chemins. Aucune trace de la xanthia bleue. Par contre, elle n'avait eu aucun mal à repérer la Rover Mini de Malvina de Carville, garée presque devant la roseraie. La voiture garée rue de la Butte aux Cailles, quelques heures auparavant. Ni Crédule, ni Nazim n'étaient donc ici. Elle hésitait sur l'attitude à adopter. Attendre ici malgré tout? Au cas où, sonner chez les Carville? Entrer? Trouver cette Malvina de Carville? La faire parler d'une façon ou d'une autre? Lui demander ce qu'elle faisait devant chez Grand-Duc? Lui demander surtout si elle avait croisé Nazim? Et il la sentait toujours le froid de la lame de son grand couteau de cuisine contre sa jambe. Ah oui, elle aurait bien aimé s'offrir un petit tête-à-tête avec cette Malvina. Le matelas de feuilles mortes crissait doucement sous ses semelles. Elle se raisonna. Contacter les Carville était la dernière chose à faire. La bonne solution, elle l'avait tournée et retournée dans sa tête, était de se rendre à la police. De leur dire le plus simplement du monde que son mari, Nazim Ozan, n'avait pas donné de nouvelles depuis 2 jours. Lancer un avis de recherche, les flics peuvent faire cela. Peut-être qu'il n'était pas trop tard, peut-être que les flics ne poseraient pas de questions après tout. Et s'ils en posaient, et si elle sentait que cela pouvait aider à retrouver Nazim, alors oui, sans hésitation, elle raconterait aux flics tout ce qu'elle savait. Son témoignage aiderait Nazim au final. Il n'était pas le seul coupable, elle le dirait aux flics. Il comprendrait. Nazim aussi comprendrait. Tout ce qui importait maintenant, c'était de le retrouver. Eila regarda à nouveau vers la roseraie. Ce qu'elle aurait voulu, c'est que la fille sorte, la Malvina. Elle l'aurait coincée, lui aurait mis le couteau sous la gorge, lui aurait expliqué que si elle ne parlait pas, elle la découperait en lamelles, façon viande de kebab. La fille aurait craché le morceau. Elle était folle, pas suicidaire. Mais Eila ne décelait toujours aucune trace de cette fille, juste sa voiture. Elle hésita. Elle attendait déjà là depuis 1 heure. Tant pis, il fallait repartir. Elle devait parler aux flics. Eila se leva. Le coup de feu lui explosa dans les oreilles. D'instinct, Eila plongea dans les feuilles. Elle eut l'impression de tomber sur un épais tapis. Elle souffla. Elle n'était pas touchée. Elle estima que le coup avait été tiré à moins de 50 mètres d'elle. L'avait-on visé? Ou bien avait-elle simplement paniqué? Des chasseurs? Il devait y en avoir un paquet dans cette forêt, dans cette banlieue chic, peut-être même de la chasse à cour. Que faire? Crier? Hurler? Hé, je suis là! Prévenir les chasseurs? Prévenir le tueur? Peut-être. Ou bien ramper, tenter de rejoindre le chemin, quelques centaines de mètres plus bas. Là, elle serait en sécurité, près des maisons. Eila ne fit rien, attendit, guettant le moindre bruit dans la forêt. L'adrénaline qui montait en elle lui rappelait le moment où elle avait fui la Turquie des généraux, avec son père, caché dans le faux plancher d'un camion pendant des heures. Elle se souvenait encore du bruit des bottes sur les lattes à la frontière, et elle, quelques centimètres en dessous, sa bouche bâillonnée par la main de son père. Tous ses sens étaient en éveil. À présent, aucun bruit ne traversait la forêt. Juste le vent, dans les arbres, les feuilles. Elle attendit de longues minutes qui lui parurent des heures. Rien. Une forêt calme, paisible. Doucement, elle se leva, scrutant les ombres dans les arbres, le vent dans les feuilles. Personne. Elle était à nouveau seule dans cette forêt. Sans doute avait-elle entendu une balle perdue. L'écho sous les arbres avait dû amplifier la détonation. Le coup de feu avait pu être tiré loin d'elle, à l'autre bout de la forêt. Décidément, elle était trop nerveuse. Il fallait à tout prix qu'elle se rende au poste de police le plus rapidement possible maintenant. Elle fit un pas, lentement, méfiante malgré tout. Elle appuya sa main contre l'arbre le plus proche. La balle était fichée dans le tronc. La main d'Ayla se crispa sur l'écorce, subitement glacée. On l'avait bel et bien visée. Ayla entendit la détonation à peine un dixième de seconde avant de sentir son épaule exploser sous l'impact. Elle s'effondra. Sa clavicule se déchira une seconde fois en heurtant violemment la terre. Ayla hurla sans retenue sous le coup de la douleur. Elle roula sur le ventre, incapable de se tourner. Tout le haut de son corps refusait de lui obéir, ankylosé, paralysé par la souffrance. Ayla essaya vainement de se redresser par la seule force de son bras valide, comme un enfant de quelques mois tombé sur le ventre. Ses jambes s'agitèrent, ses pieds cherchèrent un appui pour ramper, s'éloigner. Ils ne trouvèrent qu'une couche de feuilles jaunies qui volait sous ses gestes désespérés, comme si elle cherchait à nager dans une piscine de plumes. La douleur la clouait au sol. Il fallait pourtant qu'elle s'éloigne. Elle entendit les pas s'approcher, le bruit sinistre des feuilles écrasées, de plus en plus net. Puis plus rien. Il était là. C'était fini. Ayla ne souffrait plus. Elle sentait juste le lit de feuilles mortes lui caresser la figure, le cou, les bras. Elle voulait mourir avec cette sensation, cette caresse. Ce n'était plus les feuilles qui agaçaient son corps dénudé. C'était la moustache de Nazim. Sa grosse moustache, tendre, douce, impudique. Ses pensées s'envolèrent vers la maison d'Antioche, celle qu'elle devait acheter avec Nazim en Turquie. Leur maison, leur pays, ce pays qu'elle avait fui dans les bras de son père. C'était il y a si longtemps. Le bruit d'un revolver que l'on arme rompit sèchement le silence. Ayla fit un dernier effort pour se retourner, pour le voir, connaître son assassin. Elle poussa de son bras valide. Cette dernière volonté ne lui fut pas accordée. Dans l'instant qui suivit, la balle lui traversa la nuque.